Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Suryanto. Et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, jeudi. Il est 3h du matin du temps à Jakarta. Ces auditeurs et auditrices, ce soir, le programme commencera par les journaux, suivi de commentaires. Aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point, et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le président Jokowi a dit « L'ASEAN a besoin d'architecture régionale forte de sécurité ». Le président a dit « Tirer parti de l'élan ASEAN-Chine pour résoudre COC ». Le président Jokowi Dodo a signé la déclaration sur la réponse de l'ASEAN aux catastrophes. ASEAN-Chine ont convenu qu'ils aient une hotline dans la mer de Chine méridionale. Selon un membre du Parlement, il y a une partie qui veut le navire étranger. Et enfin, on espère que les médias peuvent donner des informations objectives à propos du conflit. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo évalue que les pays de l'ASEAN ont besoin d'architectures de sécurité forte et globale afin d'augmenter la stabilité régionale, compte tenu la possibilité du potentiel de conflit ouvert et la tension due à un certain nombre d'activités en Asie du Sud-Est. C'est ce qu'a affirmé le président lorsqu'il assistait à retraite ou réunion à huis clos du 29e sommet de l'ASEAN au Centre de Congrès National CCN à Vientiane, Laos, mercredi, comme dans la déclaration écrite du chef du bureau de presse et des médias et de l'information du secrétariat présidentiel. Selon le président, les divers mécanismes qui existent dans l'ASEAN actuellement, comme l'ASEAN Plus 3, le Forum régional de l'ASEAN et le sommet de l'Asie de l'Est, EAS, n'a pas encore garanti pleinement la paix dans la région. Par conséquent, l'architecture de sécurité pourrait atteindre l'objectif ultime qui est énuméré sur le traité d'amitié et de coopération TAC et les principes du sommet de l'Asie de l'Est de Bali 2011. Outre les questions de sécurité et de l'architecture régionale, le président a également souligné l'importance de la coopération maritime. L'ASEAN doit immédiatement mettre en œuvre les engagements de coopération maritime convenus lors du sommet de l'Asie de l'Est en 2015. Le président a également noté plusieurs endroits dans la mer qui nécessitent une attention particulière de la communauté de l'ASEAN. À la fin de son discours, le président a rappelé les dangers de l'extrémisme et le terrorisme en Asie du Sud-Est. À cette fin, il a demandé à tous les chefs d'État ou de gouvernement de l'ASEAN d'optimiser tout le mécanisme de l'ASEAN pour lutter contre l'extrémisme terrorisme. Le président Joko Widodo a souligné l'importance de l'ASEAN et la Chine de tirer parti l'élan de la commémoration du 25 ans des relations ASEAN-Chine pour finaliser les négociations du code de conduite ou COC dans la mer de Chine méridionale. La déclaration a été transmise par le président Joko Widodo dans le sommet de la commémoration du 25 ans des relations ASEAN-Chine à National Convention Center, NCC, Vientiane, Laos, mercredi. L'ASEAN et la République populaire de Chine devraient être en mesure de contribuer à la paix et à la stabilité dans la région, si bien que la sécurité dans la mer de Chine méridionale doit être maintenue. Il a été dit par la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsoudi, citée de l'affirmation du président. La ministre Retno Marsoudi, lors d'une conférence de presse au deuxième jour du 21e sommet de l'ASEAN et le sommet connexe du 29e ASEAN ANCC, a déclaré que la réponse chinoise sur l'appel du président Jokowi était positive. Par conséquent, l'ASEAN et la Chine devraient tirer parti de l'élan des relations de 25 ans en accélérant l'achèvement du code de conduite en mer de Chine méridionale. La ministre indonésienne des Affaires étrangères a déclaré que le code de conduite sera l'instrument d'amplificateur au maintien de la stabilité, de sécurité et de la paix dans la mer de Chine méridionale qui est conforme au droit international applicable, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de mer, une clause 1982. En outre, le président Joko Widodo a également souligné l'importance de la solution pacifique des différents territoires dans la mer de Chine méridionale. Le président Joko Widodo et 9 autres dirigeants des pays membres de l'ASEAN ont signé la déclaration sur la réponse de l'ASEAN aux catastrophes dans et hors de l'Asie du Sud-Est. La signature de la déclaration fait partie de l'ordre du jour des dirigeants de l'ASEAN au premier jour du 28e sommet de l'ASEAN et le 29e sommet lié à l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, mardi à Vientiane, au Laos. Cela a été dit par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsoudi, dans une conférence de presse à Vientiane, mardi soir. Selon la ministre Retno, la déclaration sur la réponse de l'ASEAN aux catastrophes est nécessaire pour renforcer la coopération et la coordination dans un mécanisme efficace pour faire face aux catastrophes dans la région. La déclaration est aussi le résultat de la volonté de l'ASEAN pour avancer dans l'atténuation des catastrophes qui a été initialement convenue par l'accord sur la gestion des catastrophes et de réponse aux situations d'urgence en décembre 2007. L'ASEAN et la Chine ont convenu de la mise en œuvre du code pour les rencontres en mer non planifiées, QUS, et la création d'un canal hotline de la communication directe entre les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères pour résoudre les situations d'urgence dans la mer de Chine méridionale. C'est ce qu'a affirmé la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsoudi, à Vientiane, au Laos, mercredi. Lors d'une conférence de presse à National Convention Center, NCC, à Vientiane, au Laos, la ministre des Affaires étrangères a déclaré que QUS et la hotline étaient les documents du résultat du sommet du 25e anniversaire des relations Chine-ASEAN qui ont été convenus par les dirigeants de l'ASEAN, y compris le président Joko Widodo et le premier ministre chinois Li Keqiang. Le nom officiel des documents est l'application du code pour les rencontres en mer non planifiées, QUS, dans la mer de Chine méridionale et le guide de la mise en œuvre du canal de communication Hotline Communication entre les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères de l'ASEAN et de la Chine pour réagir à l'incident d'urgence maritime dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration sur le code de conduite DOC. Des parties liées à la mer de Chine méridionale. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que QUS et Hotline étaient une réalisation précoce vers l'achèvement du code de conduite dans la mer de Chine méridionale. Le membre de la commission 4 dans le domaine maritime du Parlement d'Indonésie, Ono Surono, a averti qu'il y a encore des parties qui veulent un bateau de pêche étrangère entre Indonésie. Il souhaite que la ministre de la Marine et de la Pêche, Mme Susi Pujastuti, puisse résoudre ce problème. Il a été dit par Ono Surono lors d'une réunion avec la ministre de la Marine et de la Pêche à Jakarta, mercredi à Jakarta. Selon Ono Surono, les partis essayent d'utiliser la définition que les eaux d'Indonésie dans un certain nombre de primautés de droit est d'environ 0 à 12 000 nautiques, tandis que le 12 à 200 000 est la zone économique exclusive ZEE, en plus de celui-ci et la haute mer. Concernant cette question, le politicien du Parti démocratique indonésien de lutte, PDIP, Ono Surono soutient pleinement la ministre de Souci qui rejette des capitaux étrangers dans le domaine de la pêche et des navires de pêche étrangères dans les eaux indonésiennes, ZEE et en haute mer. La ministre Souci veut l'indépendance qui a été réalisée de la République unitaire d'Indonésie n'est plus prise par le modèle colonial du nouveau style. L'ambassadeur de la Russie à l'Indonésie, Michael Galuzan, souhaite que les médias comme un émetteur d'informations pour la communauté puissent donner des informations objectives, y compris la présentation d'informations du conflit dans quelques pays. C'est ce qu'a été dit par Michael Galuzan lors de l'événement du forum diplomatique organisé par RRI La Voix d'Indonésie qui a eu lieu le 6 septembre 2016 à Jakarta sur le thème « Le rôle des médias dans la création d'un monde de paix ». Selon Michael Galuzan, les médias doivent respecter l'éthique journalistique de sorte que toutes les informations qui sont transmises au public ne créent pas un impact négatif, y compris de ne pas transmettre les informations qui ne sont pas objectives dans les pays en conflit. Selon une étude récente, les décès dus à des conflits ont atteint le plus haut niveau en 25 ans, tandis que le nombre de réfugiés a atteint le plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale. Le commissaire indonésien de la Commission de la radiodiffusion, Mayong Suryo Laksono, a déclaré qu'il encouragerait les médias de masse d'obéir toujours aux règlements qui étaient destinés à la télévision, la radio et la presse écrite pour que les informations puissent donner une atmosphère positive et ne provoquent pas d'effets négatifs. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Chers amis, bonsoir. Voici donc le commentaire et pour le titre, le discours d'imiter le style de voisins pour lutter contre les crimes de drogue. Le crime de drogue est devenu un grave problème pour de nombreux pays. En dépit de traiter différemment, chaque pays veut le crime qui peut entraîner un long impact sur la future génération du pays à être complètement détruit le plus tôt possible. À l'inverse, il est comme un champignon qui pousse dans la saison des pluies. Le nombre de trafiquants de drogue et les utilisateurs ont augmenté plus récemment. C'est pourquoi l'Indonésie a confirmé que la situation actuelle est un cas d'urgence de la drogue. L'exécution de la mort pour le cerveau de la drogue a déjà fait pour 3 fois. Mais il semble que cette exécution ne conduit pas à un effet dissuasif maximal. Le chef de l'Agence nationale des stupéfiants, BNN, Budi Waseso, a soulevé un discours sur lequel l'Indonésie peut imiter la mesure extrême prise par le président des Philippines, Rodrigo Duterte. Depuis plusieurs mois, au cours de la présidence de Duterte, des centaines de personnes qui seraient liées au trafic de drogue ont été tuées dans ce qui est appelé une fusillade avec les agents d'application de la loi. Le nombre de victimes signalées par certains médias ne comprend pas la mort aux mains des parties non policières. L'impact des mesures décisives prises par le président Duterte est remarquable. Au moins, on peut voir à partir du nombre de présumés trafiquants et les consommateurs de drogue qui ont finalement décidé de se livrer. Cependant, certains droits de l'homme des groupes d'activistes ont évalué qu'il y a une grande violation des droits de l'homme aux Philippines. Honnêtement, ce que le président Duterte fait rappelle au peuple de l'Indonésie dans un terre mystérieux communément appelé Petrus au cours des années 1980. Cette tragédie est présentée comme une opération secrète dirigée par le gouvernement pour lutter contre le crime qui a eu lieu à l'époque. Donc, ce qui est arrivé aux Philippines et en Indonésie au cours du Nouvel Ordre a des similitudes et des différences. Les activités menées ont aussi méconnu la primauté du droit et de la justice, ainsi que la réaction incontrôlée déclenchée par le public. La différence est que les combats sporadiques contre les auteurs indonésiens ont été fermés, tandis que dans les Philippines, il a été fait campagne ouvertement par le président Duterte. Chaque crime qui entraîne la destruction de la future génération doit être traité fermement. Toute la politique à prendre à cet effet serait soutenue par la communauté. Mais le discours de suivre ce que le chef des Philippines a fait, bien sûr, il doit être considéré plus sérieusement et prudemment. L'Indonésie ne reviendra pas à la période de conduite de quelque chose d'illégal. Toutefois, l'Indonésie doit éviter les victimes innocentes. Donc, il n'y a aucun sens pour ceux qui veulent déclencher la situation troublée, y compris la prévention de l'apparition éventuelle de conflits horizontaux. Depuis le début de l'ère de la réforme, la nation indonésienne a été engagée à faire la loi en tant que commandant en l'État et de la nation. Par conséquent, l'application de la loi doit être effectuée de manière appropriée, stipulée dans la loi elle-même. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ces auditeurs du Tissu du monde entier, voici le programme quotidien, l'histoire d'aujourd'hui, l'édition le 8 septembre. On va commencer le 8 septembre 1920. Le Parti du Congrès a reconnu le programme de la lutte non-violente de Gandhi. Le satyagraha ou principe de non-violence par la désobéissance civile fut instauré par Mohandas Gandhi, organisateur de la lutte de la communauté indienne pour ses droits civiques et pionnier dans le mouvement pour l'indépendance de l'Inde. Le 8 septembre 1920, son programme La lutte non-violente est même reconnu par le Parti du Congrès ou Congrès national indien, dont il devint le dirigeant exécutif en 1921. En Inde, Gandhi est aujourd'hui considéré comme le père de la nation et son anniversaire est une fête nationale. On chante le 8 septembre 1951, traité de San Francisco. Quarante-huit pays signent le traité de San Francisco sur le statut du Japon d'après-guerre. S'il met fin à l'occupation, s'il s'accompagne de la reconnaissance de l'indépendance de la Corée et, entre autres, de renoncement au Formose. Suivant la volonté des États-Unis qui souhaitent faire barrage au communisme, le Japon est autorisé à assurer sa défense et participer à un système d'alliance militaire. Les États-Unis gardent d'ailleurs des bases militaires sur le territoire. Bien qu'il n'ait pas été signé par la Chine et l'URSS, le traité entrera en application le 28 avril 1952. On termine le 8 septembre 1991, la Macédoine proclame son indépendance. Un référendum est organisé en Macédoine et instaure son indépendance. Mais la reconnaissance internationale ne se fait pas immédiatement. La Grèce s'oppose formellement à cette indépendance. Elle refuse en effet qu'un pays puisse porter le même nom que l'une de ses régions. Par ailleurs, elle s'oppose formellement à l'utilisation du soleil de Fezzina, symbolisant Alexandre le Grand, sous le drapeau de ce nouvel État. Finalement, la Macédoine est acceptée à l'ONU, mais sous le nom de FIROM ou ex-République yougoslave et Macédoine. La Grèce, quant à elle, organisera un embargo sur le pays aggravant considérablement sa situation économique. C'est jeudi Théoditis, c'était notre aujourd'hui dans l'histoire ce soir, l'édition le 8 septembre. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs et auditrices du monde entier, voici la mise au point aujourd'hui intitulée « La communauté économique de l'ASEAN est appliquée ». 12 000 serveurs des Philippines vont aller en Indonésie. Le ministre de l'Éducation et de la Culture, Muhajir Effendi, a dit qu'il y aurait 12 000 serveurs de licence internationale des Philippines qui vont venir en Indonésie. 40% d'entre eux sont les FAMP. Leur arrivée est l'impact de la mise en œuvre de la communauté économique de l'ASEAN. Il a été dit par Muhajir Effendi récemment à Malang. Concernant cette question, le gouvernement va encourager la formation professionnelle des étudiants indonésiens. Selon Muhajir Effendi, cela est fait dans le but de créer des emplois avec des compétences fiables. Parce que l'Indonésie nécessite la main-d'œuvre qualifiée pour faire face aux défis de la main-d'œuvre dans l'avenir. Il a demandé aux étudiants d'avoir l'orientation sur les compétences quand ils sont au lycée. Ainsi, après avoir été diplômés de lycée, ils peuvent immédiatement obtenir un emploi. Le gouvernement encourage l'enseignement professionnel. Le gouvernement espère que les enfants diplômés de lycée professionnel, SMK, peuvent travailler. Le gouverneur des affaires Soekarwo a également dit la même chose. Selon lui, l'Indonésie a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Un certain nombre d'États membres de la CEA sont prêts à entrer en Indonésie. En fait, il y a quelques pays qui enseignent l'indonésien dans les écoles et les collèges. Les collèges aux Philippines enseignent l'indonésien et ceux qui sont les plus prêts à l'indonésien. Soekarwo a déclaré que l'Indonésie était encore une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, notamment liée aux technologies modernes. Les États-Unis comptent par exemple une pénurie de 2500 infirmières. L'Australie a besoin de 150 infirmières. Malheureusement, cette demande ne peut être remplie car ils doivent être en mesure d'utiliser l'équipement. Chers auditeurs et auditrices, c'était notre la mise au point de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Le président Joko Widodo évalue que les pays de l'ASEAN ont besoin d'architectures de sécurité forte et globale afin d'augmenter la stabilité régionale. Compte tenu de la possibilité du potentiel de conflits ouverts et la tension due à un certain nombre d'activités en Asie du Sud-Est. C'est ce qu'a affirmé le président lorsqu'il assistait à la retraite ou réunion à huis clos du 29e sommet de l'ASEAN au Centre de Congrès National, CCN, à Vientiane, Laos, mercredi, comme dans la déclaration écrite du chef du bureau de presse et des médias et de l'information du secrétariat présidentiel. Selon le président, les divers mécanismes qui existent dans l'ASEAN actuellement, comme l'ASEAN Plus 3, le Forum régional de l'ASEAN et le sommet de l'Asie de l'Est, EAS, n'a pas encore garanti pleinement la paix dans la région. Par conséquent, l'architecture de sécurité pourrait atteindre l'objectif ultime qui est énuméré sur le traité d'amitié et de coopération TAC et les principes du sommet de l'Asie de l'Est de Bali 2011. Outre les questions de sécurité et de l'architecture régionale, le président a également souligné l'importance de la coopération maritime. L'ASEAN doit immédiatement mettre en œuvre les engagements de coopération maritime convenus lors du sommet de l'Asie de l'Est en 2015. Le président a également noté plusieurs endroits dans la mer qui nécessitent une attention particulière de la communauté de l'ASEAN. À la fin de son discours, le président a rappelé les dangers de l'extrémisme et le terrorisme en Asie du Sud-Est. À cette fin, il a demandé à tous les chefs d'État ou de gouvernement de l'ASEAN d'optimiser tout le mécanisme de l'ASEAN pour lutter contre l'extrémisme terrorisme. Le président Joko Widodo a souligné l'importance de l'ASEAN et la Chine de tirer parti l'élan de la commémoration du 25 ans des relations ASEAN-Chine pour finaliser les négociations du code de conduite ou COC dans la mer de Chine méridionale. La déclaration a été transmise par le président Joko Widodo dans le sommet de la commémoration du 25 ans des relations ASEAN-Chine à National Convention Center, NCC, Vientiane, Laos, mercredi. L'ASEAN et la République populaire de Chine devraient être en mesure de contribuer à la paix et à la stabilité dans la région, si bien que la sécurité dans la mer de Chine méridionale doit être maintenue. Il a été dit par la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsoudi, citée de l'affirmation du président. La ministre Retno Marsoudi, lors d'une conférence de presse au deuxième jour du 21e sommet de l'ASEAN et le sommet connexe du 29e ASEAN ANCC, a déclaré que la réponse chinoise sur l'appel du président Jokowi était positive. Par conséquent, l'ASEAN et la Chine devraient tirer parti de l'élan des relations de 25 ans en accélérant l'achèvement du code de conduite en mer de Chine méridionale. La ministre indonésienne des Affaires étrangères a déclaré que le code de conduite sera l'instrument d'amplificateur au maintien de la stabilité, de sécurité et de la paix dans la mer de Chine méridionale qui est conforme au droit international applicable, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de mer, UNCLOS 1982. En outre, le président Joko Widodo a également souligné l'importance de la solution pacifique des différents territoriaux dans la mer de Chine méridionale. Le président Joko Widodo et 9 autres dirigeants des pays membres de l'ASEAN ont signé la déclaration sur la réponse de l'ASEAN aux catastrophes dans et hors de l'Asie du Sud-Est. La signature de la déclaration fait partie de l'ordre du jour des dirigeants de l'ASEAN au premier jour du 28e sommet de l'ASEAN et le 29e sommet lié à l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, mardi à Vientiane au Laos. Cela a été dit par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsoudi, dans une conférence de presse à Vientiane mardi soir. Selon la ministre Retno, la déclaration sur la réponse de l'ASEAN aux catastrophes est nécessaire pour renforcer la coopération et la coordination dans un mécanisme efficace pour faire face aux catastrophes dans la région. La déclaration est aussi le résultat de la volonté de l'ASEAN pour avancer dans l'atténuation des catastrophes qui a été initialement convenue par l'accord sur la gestion des catastrophes et des réponses aux situations d'urgence en décembre 2007. L'ASEAN et la Chine ont convenu de la mise en œuvre du code pour les rencontres en mer non planifiées, QUS, et la création d'un canal hotline de la communication directe entre les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères pour résoudre les situations d'urgence dans la mer de Chine méridionale. C'est ce qu'a affirmé la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsoudi, à Vientiane, au Laos, mercredi. Lors d'une conférence de presse à National Convention Center, NCC, à Vientiane, au Laos, la ministre des Affaires étrangères a déclaré que QUS et la hotline étaient les documents du résultat du sommet du 25e anniversaire des relations Chine-ASEAN qui ont été convenus par les dirigeants de l'ASEAN, y compris le président Jokowi et le premier ministre chinois Li Keqiang. Le nom officiel des documents est l'application du code pour les rencontres en mer non planifiées, QUS, dans la mer de Chine méridionale et le guide de la mise en œuvre du canal des communications Hotline Communication entre les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères de l'ASEAN et de la Chine pour réagir de l'incident d'urgence maritime dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration sur le code de conduite DOC. Des parties liées à la mer de Chine méridionale. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que QUS et Hotline étaient une réalisation précoce vers l'achèvement du code de conduite dans la mer de Chine méridionale. Le membre de la Commission 4 dans le domaine maritime du Parlement d'Indonésie, Ono Suhono a averti qu'il y a encore des partis qui veulent un bateau de pêche étrangère entre Indonésie. Il souhaite que la ministre de la Marine et de la Pêche, Madame Susi Pujastuti, puisse résoudre ce problème. Il a été dit par Ono Suhono lors d'une réunion avec la ministre de la Marine et de la Pêche à Jakarta, mercredi à Jakarta. Selon Ono Suhono, les partis essayent d'utiliser la définition que les eaux d'Indonésie dans un certain nombre de primautés de droit est d'environ 0 à 12 000 nautiques, tandis que le 12 à 200 000 est la zone économique exclusive ZEE, en plus de celui-ci et la haute mer. Concernant cette question, le politicien du Parti démocratique indonésien de lutte, PDIP, Ono Suhono soutient pleinement la ministre de Susi qui rejette des capitaux étrangers dans le domaine de la pêche et des navires de pêche étrangères dans les eaux indonésiennes, ZEE et en haute mer. La ministre Susi veut l'indépendance qui a été réalisée de la République unitaire d'Indonésie n'est plus prise par le modèle colonial du nouveau style. L'ambassadeur de la Russie à l'Indonésie, Michael Galuzan, souhaite que les médias comme un émetteur d'informations pour la communauté puissent donner des informations objectives, y compris la présentation d'informations du conflit dans quelques pays. C'est ce qu'a été dit par Michael Galuzan lors de l'événement du forum diplomatique organisé par RRI La Voix d'Indonésie qui a eu lieu le 6 septembre 2016 à Jakarta sur le thème « Le rôle des médias dans la création d'un monde de paix ». Selon Michael Galuzan, les médias doivent respecter l'éthique journalistique de sorte que toutes les informations qui sont transmises au public ne créent pas un impact négatif, y compris de ne pas transmettre les informations qui ne sont pas objectives dans les pays en conflit. Selon une étude récente, les décès dus à des conflits ont atteint le plus haut niveau en 25 ans, tandis que le nombre de réfugiés a atteint le plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale. Le commissaire indonésien de la Commission de la radiodiffusion, Mayong Suryo Laksono, a déclaré qu'il encouragerait les médias de masse d'obéir toujours aux règlements qui étaient destinés à la télévision, la radio et la presse écrite pour que les informations puissent donner une atmosphère positive et ne provoquent pas d'effets négatifs. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ce sont toujours des faits frais qu'on vous propose sur la Voix de l'Indonésie. Passons maintenant, le magazine culturel est suivi par l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers auditeurs auditrices, voici notre le magazine culturel La Voix d'Indonésie. Cette fois, nous allons vous inviter à visiter Blitar, la province de Java Est. Le chocolat est un aliment plus ou moins sucré, produit à partir de la fève de cacao. Celle-ci est fermentée, torréfiée, broyée jusqu'à former une pâte de cacao liquide dont on extrait la matière grasse appelée beurre de cacao. Le chocolat est généralement donné comme un cadeau au moment spécial. À l'heure actuelle, le chocolat est l'une des saveurs les plus populaires dans le monde. Il est consommé sous forme de barres de chocolat et aussi de boissons chaudes et froides. L'Indonésie est l'un des sites de chocolat. Ce lieu touristique appelé le Kampung Coklat ou le village de chocolat. Le village de chocolat est situé sur la rue Banteng Blorok, le village de Plosorejo, Kademangan, Blitar, Java Est. Pour y aller, la ville de Blitar vers le sud, environ 3,5 km. Après avoir garé le véhicule, les visiteurs peuvent aller sur les sites touristiques, l'arôme du chocolat et sentir en entrant dans cet endroit. Les visiteurs passeront la grange de chocolat avant d'arriver au comptoir du billet d'entrée. Le prix du billet d'entrée est de 5000 roupias. Autour du comptoir, les visiteurs peuvent voir les fèves de cacao qui sont cherchées pour être traitées. Dans ce lieu touristique, les visiteurs iront dans un jardin qui a été utilisé comme un endroit confortable pour se reposer. Aller à l'intérieur, plus profond, il y a la salle de production de chocolat, mais les visiteurs ne peuvent pas y entrer. Cette salle est bordée par un mur de verre, de sorte que les visiteurs peuvent encore voir le processus de production du chocolat. Dans le village des chocolats à Blitar, il y a différentes mini-stands vendant une variété d'aliments et de boissons, comme le chocolat glacé, le chocolat chaud, le riz de chocolat, les nouilles de chocolat, la crème glacée et d'autres. Les prix pour les plats de 5000 roupias jusqu'à 10000 roupias. En outre, il y a aussi un repas sous forme de buffet pour les visiteurs qui ne veulent pas seulement un repas léger. À côté du lieu de loisirs, les visiteurs peuvent voir la pépinière, le cacao, où les arbres sont encore petits. Pour l'éducation, le village du chocolat Blitar offre une grande variété de programmes de voyages éducatifs, avec le tarif de 15 000 roupias jusqu'à 50 000 roupias, où les visiteurs peuvent récolter les fèves de cacao. La transformation des fèves de cacao, des discussions avec des experts de la culture. Les billets pour l'éducation peuvent être achetés au comptoir de vente de billets d'entrée. C'est sur l'Itauditis. C'était notre magazine culturel aujourd'hui. À demain.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Chers auditeurs de la voix de l'Indonésie, bonsoir. Rencontrons-nous dans l'Indonésie en couleur. Dans cette édition, je vous présente des informations sur le mouvement d'alphabétisation scolaire. Restez toujours avec nous sur www.voe.co.id. Outre par l'audio streaming, vous pouvez également écouter notre émission sur les ondes courtes 9525 kHz. L'UNESCO a fixé le 8 septembre comme la journée internationale de l'alphabétisation. Cette décision est faite pour rappeler au monde l'importance de l'alphabétisation à notre culture. L'alphabétisation est la capacité de lire, d'écrire et de communiquer qui permet une personne à se présenter et à communiquer avec le monde extérieur. Selon le rapport de l'ONU en 2010, l'alphabétisation est aussi une puissance d'autonomisation personnelle et le développement social de l'homme. De nombreuses études montrent que l'alphabétisation réduit de la pauvreté, la mortalité infantile, la prévention de la croissance de la population, la promotion de l'égalité des sexes et d'encourager le développement durable, la sécurité du monde ainsi que la démocratie. Cette année, l'anniversaire de l'alphabétisation globale montre le thème « La lecture du passé, l'écriture de l'avenir ». La célébration aura lieu au siège de l'UNESCO, Paris, sous la forme d'une conférence de deux jours, le 8 et 9 septembre. Au sommet de l'événement, il y aura la contribution du prix d'alphabétisation. Musique. Compte tenu de l'importance de l'alphabétisation dans notre culture, l'ex-ministre de l'Éducation et de la Culture, Anis Baswedan, a lancé le mouvement pour l'alphabétisation aux écoles, créateur de la politesse en 2015. Le lancement du mouvement pour l'alphabétisation scolaire se fait symboliquement par la remise de lecteurs de manuels scolaires à 20 écoles à Jakarta comme matériel initial des activités d'alphabétisation. Le mouvement pour l'alphabétisation scolaire a été développé sur la base du règlement du ministère de l'Éducation et de la Culture numéro 21 de 2015 sur la politesse. Ce mouvement scolaire a pour but de familiariser et de motiver les élèves à avoir la volonté de lire et écrire, afin de favoriser un bon caractère. À long terme, on espère que les enfants auront des compétences élevées dans la littérature. Musique. Le mouvement d'alphabétisation scolaire est un effort ou une activité qui est participative, impliquant la communauté scolaire, comme les élèves, les enseignants, les directeurs, personnels, inspecteurs scolaires, communautés d'école, les parents ou les tuteurs des étudiants, les universitaires, les éditeurs, les médias, les publics, comme les dirigeants communautaires qui peuvent représenter les vertus, les entreprises, etc. Et les partis qui sont sous la coordination de la Direction générale de l'éducation primaire et secondaire du ministère de l'Éducation et de la Culture. Le mouvement de l'alphabétisation scolaire est commencé par l'habituation de lecteurs pour les apprenants. Cette habituation est mise en œuvre avec 15 minutes de lecture où l'enseignant lit un livre et les apprenants le lisent silencieusement, qui est adapté au contexte ou la cible de l'école. Lorsque l'habituation de lecture est formée, l'étape du développement et de l'apprentissage commence. Des variations dans ces activités peuvent être un mélange du développement des compétences réceptives et productives. À la pratique, dans certaines périodes prévues, il y a des évaluations d'impact réalisées de sorte que le mouvement apparaît dans le public et il puisse continuer à se développer. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur d'aujourd'hui. On se rencontrera encore dans la prochaine édition avec des sujets aussi intéressants. À bientôt!
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Passons maintenant divertissement avec la couleur de la musique indonésienne qui vont vous plaire.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine musical. Comme d'habitude, avant de terminer notre émission, nous allons vous présenter des musiques indonésiennes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voe.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons un chanteur pop qui s'appelle Harvey Malaiholo. Pour ouvrir notre rencontre, voici la chanson de Harvey Malaiholo intitulée « Jeune fille ». Bonne écoute.
Nara, aku melihatmu hanyut dalam gerakanmu. Oh,
sana, ku cari kau ke sini, ke ujung dunia pun tak peduli. Kau sungguh jelita, anggun dan penuh pesona. Binar bola matamu dan senyum yang menawan menggetarkan jiwa. Oh darah, kau pikat hati yang tak mengerti apa arti senyum di sela-sela tarianmu. Namun sikap wajahku telah hilang di tepi gairah cinta yang begitu dalam. Ku cari kau kesana, kesini, ke ujung dunia pun tak peduli. Ku cari kau kesana, ku cari kau kesini, ke ujung dunia pun tak peduli.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Harvey Maliholo intitulée Jeune fille. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voe.co.id et nous vous invitons également à rejoindre la Voix de l'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voeindonesia. Le talent de chant de Harvey Maliholo provient du grand-père, un chanteur qui est très habillé et populaire dans ce pays dans la post-indépendance, à savoir Bram Titale, ou mieux connu sous le nom de Bram Aceh. Le grand-père Harvey est actif dans un groupe de musique Awayang. Pas étonnant si le petit-fils Harvey Maliholo suit les traces de son grand-père. Harvey a la voix d'or comme preuve. Il a gagné toujours en champion dans divers festivals de chanteurs pop de l'Indonésie, surtout après avoir remporté l'événement de la vedette de la radio et de la télévision à la fin des années 70, ses débuts ont commencé à briller. Un certain nombre de maisons de disques se sont efforcées à enregistrer sa voix pour le commerce. De plus, après son duo avec une chanteuse qui est également la voix d'or, Rafika Duri, sa popularité est de plus en plus imminente dans le pays. Harvey et Rafika ont publié également un album en duo. Bon, chers auditeurs, écoutons maintenant la chanson intitulée Premier amour de Harvey et Rafika Duri. Bonne écoute.
Bulan indah kerja kini aku telah tahu, tinggallah hanya kenangan cintaku yang pertama, cintaku yang pertama.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Harvey et Rafika Duri intitulée « Premier amour ». La popularité de Harvey existe seulement une décade, bien que ses chansons soient encore bien aimées et intégrées dans le cœur des amateurs des chansons pop indonésie dans le pays. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici la dernière chanson de Harvey intitulée « Bonne écoute et à bientôt ».
Angin dingin meniup mencekam di bulan Desember. Air hujan turun deras dan kejam, hati berdebar. Ku teringat bayangan impian di malam itu, malam yang kelabu, kau ucapkan kata selamat tinggal sayang. Bulan madu yang kita janjikan semakin melayang, telan air hujan, engkau tak datang. Bulan ini Desember kedua, aku menanti. 2 tahun sudah ku sabar menanti, ku dilanda sepi. Angin dingin menusuk di hati, terasa nyeri. Bulan madu, tinggallah impian tanpa kenyataan. Kini pudar sudah, Desember kelabu selalu menghantui setiap mimpiku. Bulan madu yang kita janjikan semakin melayang, telan air hujan, engkau tak datang. Bulan ini Desember kedua, aku menanti. 2 tahun sudah ku sabar menanti, ku dilanda sepi. Angin dingin menusuk di hati, oh terasa nyeri. Bulan madu, tinggallah impian tanpa kenyataan. Sinar
seterang rembulan, kini pudar sudah. Desember kelabu selalu menghantui setiap mimpiku.
Chers amis, c'est la fin de notre émission en français de la voix d'Indonésie ce soir. Donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles, vous qui nous écoutez des quatre coins du monde. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.